Mais tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, un tout nouveau rendez-vous, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addictif. Cette semaine, une révolution douce, l'économie sociale et solidaire. Au départ de cette série, il y a des oxymores, business vertueux, économie humaine, entrepreneuriat social. Alors cette semaine, on explore le paradoxe pour faire un état des lieux de ces entreprises qui inventent un îlot de solidarité dans l'océan du capital. Mais un îlot rentable, pas fou. Pour commencer, les personnages, de futurs patrons qui veulent faire rimer business avec humanité, des chercheurs enseignants et militants, des chômeurs qui se réinsèrent, une habitante qui tente de renouer avec son voisinage et une ancienne SDF qui cuisine. Ensuite, le décor, des bureaux, des amphithéâtres, des salles de réunion, une ressourcerie dans une rue animée de l'Est parisien, des halls d'immeubles, des portes qui s'ouvrent, d'autres qui se ferment. On est à Paris et la révolution douce serait en marche. Aujourd'hui, premier épisode, pour une économie plus humaine, un documentaire de Patrick Boudet réalisé par Guillaume Baldi. On est allé poser nos micros chez ceux qui voguent vers la terre promise d'un monde du travail vertueux, et c'est une longue histoire.
À vous les prolétaires, pour notre intérêt général, brisez les chaînes de fer et l'esclavage fatal.
Pour une économie plus humaine, Patrick Boudet, Guillaume Baldi. L'économie sociale et solidaire connaît depuis une dizaine d'années un regain d'intérêt et suscite de nombreuses vocations. Ces valeurs, dont les principales sont l'intérêt général, le partage, l'ancrage territorial, le refus de l'enrichissement personnel et le souci de l'environnement, y sont pour beaucoup et résonnent avec le désir citoyen d'un monde plus juste et plus équilibré. Ce chant des ouvriers de la coopérative de la TSF nous rappelle que l'économie sociale et solidaire est née au XIXe siècle. Patrick Vivray, philosophe.
Les missions originelles de l'économie sociale, d'abord, puisque c'est dans une période plus récente qu'elle s'appellera également solidaire, c'était précisément face à une forme de capitalisme industriel qui était très inhumain. On l'a oublié souvent aujourd'hui, mais il suffit de relire Zola pour s'en convaincre. Eh bien, d'organiser d'abord le secours mutuel d'ouvriers, de façon à lutter contre l'insoutenabilité, le travail des enfants, les conditions du travail des femmes, des conditions de travail souvent insoutenables, les cadences infernales, etc. Donc c'est ce mouvement qui permet de remettre des humains debout qui a commencé à s'organiser. Et puis ça a été, par exemple, dans tout le secteur de l'assurance, de dire, au lieu de se mettre dans les mains de compagnies d'assurance privées qui sont là essentiellement pour faire de l'argent, nous allons, nous instituteurs, par exemple si je prends le cas de la Maif, nous organiser entre nous pour créer notre propre mutuelle. Nous, petits paysans, pour organiser l'achat de matériel agricole coopératif entre nous. Donc c'est vraiment un sursaut à la fois de dignité et on pourrait presque de survie collective face à ce qu'il y avait d'insoutenable dans le capitalisme industriel.
À partir de quel moment l'économie sociale devient solidaire?
C'est essentiellement dans les années 70, parce que on voit apparaître de nouvelles formes d'intervention qui sont plus transformatrices qu'une économie sociale historique qui souvent, parce qu'elle a réussi, a en contrepartie perdu une partie de son énergie transformatrice. Quelqu'un qui est aujourd'hui dans une grande mutuelle de santé ou d'automobile, a du mal à se souvenir de l'énergie transformatrice et, osons le mot, anticapitaliste, qui était celle du projet mutualiste à l'époque. Donc l'économie solidaire des années 70, elle va retrouver cette énergie transformatrice, et d'ailleurs pendant un premier temps, il y aura souvent des zones de conflit entre l'économie sociale historique et puis l'économie solidaire. Et nous avons été plusieurs acteurs à dire faisons de ces différences un atout, parce qu'on a à la fois besoin de la puissance et de la mémoire de l'économie sociale historique, mais on a besoin de l'énergie transformatrice de la nouvelle économie solidaire. Et c'est la même chose qui s'est passée quelques années après avec ce qu'on a appelé le mouvement de l'entrepreneuriat social.
Vous pouvez l'arrêter avant. Ah, ici. Ok. Là, vous venez de réfléchir aux activités que vous aimiez faire, qui vous procuraient de la satisfaction. Maintenant, la deuxième chose sur laquelle on va essayer de se recentrer, et qui n'est pas, enfin, qui est très importante aussi, ça rejoint la solution que j'ai proposée, c'est en gros, on va réfléchir sur vos forces. Quelles sont vos forces? Quelles sont les choses que vous savez faire? Ça peut être vos talents, ça peut être vos compétences techniques ou comportementales, ça peut être des savoir-être. Exemple, je pense avoir le sens de l'écoute, ou ça peut être des qualités, je pense avoir le sens de l'organisation, ou être assez synthétique. Donc voilà, réfléchissez à vos forces. C'est les mêmes règles, 5 post-it minimum. Et là, encore une sphère de notre vie sur laquelle on pense qu'il est très important de rester focalisé, parce qu'on a tendance à l'oublier, ce sont vos envies. La question, c'est qu'est-ce que vous voulez réaliser ou qu'est-ce que vous voulez apprendre dans le court terme ou sur le long terme. Je vous distribue les feuilles. Même consigne. Et je mets le chrono, 5 minutes.
Faire le tour du monde.
Ouais. Ah.
Alors, je suis Pauline Voldoir, je suis cofondatrice d'ActiveAction, qu'on a lancée il y a 2 ans maintenant. Alors, ActiveAction, l'ambition, c'est de transformer une période de recherche d'emploi en une expérience constructive. Et c'est vraiment né de notre expérience, on est 3 cofondateurs avec Fabien et Émilie, notre expérience de chômeur, où on s'est rendu compte que finalement, derrière les chiffres du chômage qu'on nous balance dans les médias toute la journée, il y a des personnes, et que ces personnes, eh ben, elles vivent des choses difficiles, notamment la culpabilité, l'isolement, la perte de confiance en soi. Des choses qu'on a pu ressentir nous, dans notre expérience de chômeur. Et donc du coup, on a lancé ActiveAction à vraiment cette ambition de se dire ça peut être une opportunité de développer ses compétences, de développer la connaissance de soi et de trouver une activité professionnelle qui correspond justement à nos envies. L'idée, c'est que nous, on arrive en complément de ce qui se fait déjà, proposé par les missions locales, Pôle emploi, etc., qui travaillent plus sur la technique de recherche d'emploi, développer son réseau, etc. Donc nous, l'idée, c'est de lever les freins psychologiques négatifs liés au chômage. Donc on travaille sur recréer du lien social, redonner confiance aux gens. Et ce qu'on leur propose, c'est pas que nous, on leur apporte des informations, mais c'est qu'eux-mêmes soient acteurs de cette période. Donc on les forme, ils créent des ateliers, ils les animent pour développer leur potentiel et partager avec les autres leurs compétences et leurs envies.
Un atelier dure combien de temps ?
Un atelier dure 3 heures pour une dizaine de personnes en recherche d'emploi. C'est des ateliers collaboratifs où chacun apporte des connaissances, des idées aux autres. Donc actuellement, il y a une centaine de personnes qui ont été formées à nos méthodologies et qui animent partout en France et aussi en Europe des ateliers ActiveAction. Et l'idée, c'est que chaque personne puisse créer aussi des ateliers liés à ses centres d'intérêt, liés à ses compétences. Donc on a une dizaine d'autres ateliers qui ont été créés par les membres d'ActiveAction, comme le théâtre, autour de valorisation de ses compétences, de l'improvisation, du yoga, etc. Donc il y a toute une communauté, un réseau solidaire en fait qui se crée après les ateliers et qui permettent aux personnes de se retrouver, de s'entraider dans leur recherche d'emploi. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se servir de cette période de recherche d'emploi pour développer les compétences savoir-être ou relationnelles, type la créativité, savoir travailler en équipe, l'adaptabilité, etc. Et nous, ce que l'on veut, quand on parle de CV innovant, c'est ce qu'on veut promouvoir, en fait, c'est valoriser ces compétences-là, parce que c'est les compétences qui sont essentielles pour s'adapter à une entreprise et pour être performant. Et donc voilà, c'est un peu révolutionner le CV en se basant plus seulement sur le diplôme ou sur l'expérience, mais en se basant sur l'individu, qui je suis, quel est mon talent et qu'est-ce que je peux proposer à une entreprise. Là, on arrive dans l'atelier ActiveBoost, on arrive au bout des 3 heures. Donc là, ils viennent de finir un projet collectif. Donc pendant une demi-heure, ils ont réfléchi collectivement en partant de leurs envies à qu'est-ce qu'on peut créer tous ensemble. Donc ils se sont mis par groupe de 4 ou 5. Et donc là, ils expliquent aux autres quel projet ils ont imaginé. L'idée, c'était d'imaginer collectivement un projet citoyen pour apporter le bien-être autour d'eux. L'idée, c'est de se dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, de quoi toi tu as besoin, donc de faire le tour dans l'équipe et de partir aussi sur leurs compétences et ce qu'ils ont envie de faire dans un projet. Donc ça leur permet à la fois de développer leur créativité, travailler sur l'esprit de groupe, le travail en groupe, et également de se projeter dans un projet, se dire qu'est-ce que moi j'aimerais faire comme mission, etc.
Henri ? Ça s'est bien passé l'atelier ?
On est tombé sur des gens compétents, des animateurs fantastiques qui nous ont accueillis, qui nous ont un petit peu sortis de notre torpeur et de l'ordinateur et des recherches qui sont quelquefois poussives. Donc là, c'était bien de rencontrer des gens assez différents.
Ça fait longtemps que vous êtes au chômage ?
Alors je suis au chômage depuis fin janvier, donc c'est encore récent. Ça fait du bien de tomber sur une équipe comme ça qui booste un petit peu le moral et puis qui permet de découvrir d'autres profils. Et on a tous partagé en fonction de nos différentes compétences. Donc c'est plutôt une après-midi constructive et intéressante et récréative aussi.
Qu'est-ce que vous a apporté l'atelier ?
L'idée de justement pouvoir parler franchement, honnêtement, de la réalité, de la difficulté sur des périodes longues. Donc être avec des gens qui vivent la même chose, parce que c'est difficile d'en parler aux autres, à ceux qui font partie du monde, des gens qui ont un travail. Et parce qu'on a beaucoup parlé du fait qu'on se sent un peu en dehors et qu'en fait, il y a plein de choses, il y a l'instabilité, enfin on a fait toute une liste, je ne vais pas vous le dire, mais c'est difficile psychologiquement, surtout dans la durée, et on a besoin d'être avec des gens qui comprennent, qui on peut parler librement, voilà, et avec qui on sympathise, et en même temps dans le but de se motiver, de se soutenir, pas dans le but de sortir en se disant mince, mais de sortir de l'image du chômeur, voilà, parce que cette identité... Moi, j'ai pas envie de vous parler en tant que... Voilà. On sort en se disant qu'il y a des possibilités en dehors de... Oui, surtout qu'on est créateur, parce que le chômage, c'est un peu passif. Des fois, on a l'impression d'attendre que quelqu'un dise oui. Et nous, on a envie de faire. Et tout seul, des fois, c'est difficile. Donc, l'idée de rencontrer des gens... En plus, ils proposent un suivi. Et ça, je pense que c'est très important. Parce qu'une après-midi, on fait des choses comme ça. Bon, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que, sur le long terme, on soit accompagné. Mais pas accompagné par Pôle emploi. Parce que c'est une relation différente. Où il y a des gens qui sont des employés. Et nous, on est des gens qui ont besoin d'un accompagnement. Alors qu'ici, c'est plutôt une collaboration, une coopération. Donc c'est beaucoup plus efficace.
Hugues Sibyl, président du labo de l'ESS.
C'est une question très souvent posée dans l'économie sociale et solidaire. C'est est-ce que nous sommes une économie de la réparation ou est-ce que nous sommes une économie de la transformation ? Personnellement, je souhaite faire les deux. Parce que je pense que quelquefois, en réparant, on transforme. Prenons l'exemple des entreprises d'insertion. Les entreprises d'insertion, qu'est-ce qu'elles font ? Elles accueillent des chômeurs de longue durée et elles leur proposent quelque chose qui est essentiel, qui s'appelle un contrat de travail. C'est-à-dire qu'au lieu de leur donner de l'argent pour qu'ils restent chez eux, elles leur apportent un travail, une dignité par le contrat de travail. En faisant ça, on contribue aussi à transformer la société. Ces entreprises d'insertion ont ouvert des champs nouveaux, en particulier l'économie du recyclage. C'est l'insertion qui a ouvert l'économie du recyclage dans ce pays. Donc on peut, tout en réparant, inventer des solutions pour le futur. Je prends un autre exemple que j'aime beaucoup, les coopératives d'activité d'emploi. Les coopératives d'activité d'emploi, c'est quoi ? Ce sont des personnes qui veulent se mettre à leur compte. Au lieu de le faire seul dans leur coin et de se jeter dans une piscine où éventuellement ils vont boire la tasse, ils le font dans une coopérative. Donc à la fois, ils doivent développer leur activité, ils en ont envie, mais ils sont pas tout seuls. Ils sont avec d'autres, ils ont des mécanismes de solidarité au sein de la coopérative. Donc là aussi, à la fois, on répare parce qu'on permet à des gens de sortir du chômage, mais en même temps, on transforme parce qu'on invente finalement des systèmes de relations dans lesquels on mélange de la protection sociale et en même temps de la souplesse. Donc, pour moi, l'ESS, elle est à la fois réparatrice et transformatrice. Et le mot réparation ne doit pas être considéré comme quelque chose de honteux, parce que, après tout, apporter du bien à des gens qui souffrent, personnellement, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait digne. Et dans une société développée, ça me paraît le minimum qu'on puisse faire, c'est que de faire que les gens qui sont fragiles, on leur tende la main pour les sortir de leur fragilité.
Je m'appelle Thibaut Guilloui, j'ai 39 ans et 3 enfants. Et donc je dirige le groupe ARES, donc, qui est un groupe associatif qui a été créé il y a maintenant 25 ans et qui a pour seule et unique vocation de permettre à des personnes en situation vulnérable, en grande difficulté, de pouvoir remettre le pied à l'étrier par le travail. Et c'est pour ça qu'on crée des entreprises tremplin. Donc le principe est assez simple, c'est que vous avez des personnes en situation de handicap ou qui ont eu un accident de vie et qui n'ont pas travaillé depuis quelques temps, des jeunes qui sont sortis du système scolaire sans qualification, etc. Enfin bref, il y a tout un tas de personnes en France qui ont du mal à trouver le chemin du travail. L'objectif, c'est de les recruter au sein de nos entreprises tremplin. Donc c'est des entreprises qui exercent leur activité dans tout un tas d'activités de prestation de services. Ça va de la logistique e-commerce en passant par le transport écologique de marchandises. On a aussi beaucoup d'activités dans l'économie circulaire et puis des partenariats avec un certain nombre de boîtes pour intervenir en prestation directement sur leur site. Le fait de pouvoir retrouver un travail, c'est l'occasion pour chacun de retrouver confiance en soi, de retrouver des repères, et puis progressivement de développer ses compétences, et puis la confiance en leurs propres compétences, et de réfléchir à un projet professionnel. Le deuxième aspect particulier des entreprises de tremplin, c'est qu'à la différence d'une entreprise bien gérée, par définition, on passe notre temps à se séparer de nos meilleurs éléments pour réembaucher d'autres personnes, puisque la vocation, c'est que quand nos collaborateurs sont prêts à voler de leurs propres ailes, ils puissent trouver l'emploi ou une formation qualifiante pour certains qui correspond à leurs aspirations, à leurs motivations, à leurs capacités, et de laisser la place à quelqu'un d'autre. Et donc ça suppose évidemment qu'on les accompagne individuellement sur souvent les problématiques sociales, parce que le fait de ne pas avoir travaillé pendant 1, 2, 3, 5, parfois 10 ou 15 ans fait que ils arrivent chez nous avec un certain nombre de difficultés, le logement, la santé, l'endettement, et que quand on a trop de difficultés, c'est difficile d'être bien dans son travail. Donc on les accompagne à régler tout ça, et puis ensuite, après, travailler sur le projet professionnel, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je sais faire, et qui puisse correspondre aussi à des débouchés dans le monde de l'entreprise.
C'est Condé Binta.
Qu'est-ce que vous faites ici?
Je suis loyale ici. On est en sous-traitance ARES qui travaille sur le site de L'Oréal. Nous, on nettoie les verreries des laboratoires que les techniciens utilisent pour la formulation des produits de laboratoire, de soins, que ce soit de soins de maquillage, tout. Ouais.
Ça fait combien de temps que vous êtes ici?
Presque 2 ans, oui.
Quel était votre parcours précédemment?
Avant que je ne sois chez ARES, j'ai travaillé dans la maison de retraite pendant 2 ans. J'étais dans la cellule Alzheimer. Donc, j'ai voulu travailler un peu dans le social, m'insérer un peu par rapport à tout ce qui est lié à soit aux enfants ou aux personnes âgées, vraiment donner de l'aide. C'est pourquoi je suis venue chez ARES, pour trouver une formation qui me va.
Vous étiez au chômage juste avant d'arriver chez ARES?
Oui. Parce que mon contrat était terminé dans la maison de retraite.
Comment vous avez connu Arès ?
J'ai connu Arès par rapport à ma compatriote qui a travaillé chez Arès, qui a eu une formation, qui a vraiment eu des projets chez Arès qui m'a poussé à postuler chez Arès. Mon parcours chez Arès, ça m'a beaucoup apporté, personnellement. Parce que ça m'a donné un emploi, ça m'a permis de quitter le chômage. Et puis, je suis une femme seule avec deux enfants. C'était la première fois avec Arès que je partais en vacances avec mes enfants. Ça, c'est quelque chose que toute seule, je ne pouvais pas m'offrir. Moi, actuellement, j'ai trouvé déjà une école grâce à Arès pour faire la formation d'assistante dentaire. Donc, j'espère bien d'ici que la mission soit terminée, que je trouve un employeur pour faire ma formation en alternance. Donc, c'est ça le but de mon projet, en fait. C'est des gens qui sont vraiment là pour nous. C'est une association, c'est une entreprise. Moi personnellement, ils m'ont permis de mettre les pieds sur terre, parce que vu les circonstances dont les gens viennent ici, même pas moi toute seule, je vois des gens venir qui sont vraiment dans le besoin, dans la détresse. C'est que ils donnent l'opportunité à tout le monde de s'en sortir.
Le nombre de personnes qui retrouvent un emploi chez nous, globalement, il se situe aux alentours de deux tiers. 65% l'année dernière, 67% ou 68% l'année précédente, 66% l'année d'avant. Donc, on va dire on est à un gros deux tiers. Alors après, d'ailleurs, faut se méfier quand même des chiffres, hein, et puis de ces statistiques. Globalement, là-dedans, la majorité quand même, pour nous, vont vers un emploi durable. Très essentiellement un CDI et puis parfois un CDD de plus de 6 mois. Quand vous passez par un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation, et pour nous, de temps en temps, on pense que c'est plus intéressant pour un jeune ou pour une personne qui en a la possibilité de pouvoir rentrer dans un contrat comme celui-ci, parce qu'il va sortir avec une qualification qui sera un bagage pour tout le reste de sa vie professionnelle. Et puis ensuite, après, on a les personnes qu'on va orienter directement sur des formations qualifiantes ou sur de l'intérim de pré-embauche, sachant que nous, on essaye d'éviter, quand on peut mettre les personnes finalement à disposition de l'entreprise de manière à ce que cette période d'essai se fasse en étant chez nous. Ça permet d'éviter de passer par cette case-là. Mais vous savez, il y a 84%, encore, ça va encore augmenter, de contrats signés en France aujourd'hui qui sont des contrats des CDD ou des contrats d'intérim de moins d'un mois, parce que c'est une forme d'entrée dans l'activité. Mais nous, principalement, c'est le CDI. Et après, derrière, ça veut dire aussi qu'il y a un tiers des personnes qui sortent de chez nous sans solution, en tout cas directement après leur sortie chez nous. Donc c'est un, d'abord parce que vous pouvez avoir des personnes qui sont pas prêtes, qui n'ont pas la motivation suffisante et nécessaire. Elles sont beaucoup plus rares que ce que on voudrait essayer de nous faire croire parfois en faisant des amalgames un petit peu douteux, mais il y a quand même des personnes qui sont pas motivées ou qui tout simplement ne sont pas prêtes. Après, il y a des personnes dont les difficultés sociales font que c'est vraiment trop compliqué, donc pour des raisons de santé notamment, l'accessibilité est pas possible, et voilà. Le partenariat avec l'entreprise, il est multiforme. La première chose, c'est d'abord une relation client-fournisseur. On se positionne d'abord comme des entreprises avec des collaborateurs, certes en insertion, mais qui sont capables de proposer un service avec une bonne compétitivité, un sens de la qualité, parce que le principal driver en fait de cette action d'insertion, c'est qu'on n'est pas là pour inventer un petit monde merveilleux, mais on est là pour permettre à nos collaborateurs de s'intégrer, de s'insérer, de se préparer à la vie réelle. Et donc, la relation client-fournisseur, elle est importante. Et donc, qu'est-ce que je dis aux entreprises ? Ben, comme n'importe quel entrepreneur, on est compétitif, on a le sens de l'engagement, que quand on prend un engagement, on est capable d'aller jusqu'au bout et on a des équipes qui donneront toujours le meilleur d'elles-mêmes pour pouvoir être au rendez-vous de la promesse. On ne le prend pas sous un angle moral, social, il faut faire quelque chose, parce que si vous faites ça, vous décrédibilisez et même vous dévaluez la réalité des talents, des motivations et puis des capacités des gens qui sont chez nous. Et puis en plus de ça, bah forcément, ça restera toujours un truc qui sera un petit peu à côté ou etc. Enfin voilà, pour les bonnes œuvres, on pourrait avoir sa place au soleil ou plutôt au ciel. Et ça change. C'est pas un élément de transformation très fort. Troisième et dernier élément. Là, c'est plutôt, on fait plutôt appel à la notion d'engagement du chef d'entreprise, de l'entrepreneur et sa vision, parce que beaucoup ont quand même conscience du rôle social de l'entreprise, pas comme quelque chose qu'il faut avoir sur sa plaquette pour faire joli ou pour donner le change vis-à-vis de ses clients, comme une entreprise, elle est ancrée sur un territoire, elle est ancrée sur un marché, elle est en connexion avec la vie, avec les choses. Il y a un moment donné, on n'y va pas tous, si chacun prend pas sa part au problème de l'exclusion, encore une fois, ensuite la facture, elle est certes collective, mais on finit tous par la payer.
Ce sont les valeurs de solidarité démocratique, hein, puisque c'est l'idée que l'action peut être menée par des personnes qui sont libres et égales entre elles.
Jean-Louis Laville. Professeur Ocknam.
Donc cette solidarité démocratique, elle est très importante. Elle a été avancée par Pierre Leroux en 1840, qui a opposé la charité, qui supposait une inégalité entre celui qui donne et celui qui reçoit, et la solidarité démocratique, qui est fondée sur l'égalité. Ce qu'il disait, c'est que si on considère sérieusement que l'on est en démocratie et que l'on prend les principes de celle-ci, liberté, égalité, fraternité, la solidarité est la traduction concrète de la fraternité et ne peut donc plus être confondue avec la charité, puisque la charité supposerait qu'il y ait des différences. Si on postule l'égalité, à ce moment-là, ça génère un nouveau rapport social et c'est ça qu'il a appelé la solidarité démocratique. Donc c'est véritablement un point de vue qui est très fort, puisqu'il s'agit de remettre en cause les inégalités, hein, de dire, ce qui va être mis en place à travers l'associationnisme vise à aller combattre les inégalités qui subsistent. On a affirmé une égalité, mais cette égalité, elle n'est pas réalisée, on le sait. Elle a mis très longtemps à avancer, ne serait-ce que sur le vote des femmes, qui n'a pas été obtenu avant 1945, pour prendre un exemple bien connu. Donc, il s'agit de s'appuyer sur le principe d'égalité pour mettre en place des actions collectives et que ces actions collectives amènent à combattre l'inégalité réelle qui reste malgré les principes affirmés.
Pas très bon. Vous allez sonner ?
Non, j'ai un passe.
Vous avez un passe pour tous les immeubles ?
Non, seulement pour ces trois-là.
Vous pouvez entrer.
Seulement pour les trois qui m'ont été confiés.
Qui est-ce qui vous l'a donné, le passe ?
Le manager ? Alors, notre feuille, il y est toujours. C'est parfait.
Ça, c'est pour informer. Ça, c'est pour informer les voisins que vous allez passer.
Exactement. Le pourquoi du comment, tout est écrit ici. Voisin Malin est une association, donc je ne vais pas vous lire le tout. Donc, vous allez donc recevoir la visite d'un habitant du quartier. Donc j'habite dans le quartier, je suis vraiment la voisine d'à côté. Donc pour tout ce qui se passe dans notre quartier, je suis à peu près la mieux informée pour leur en parler. Donc notamment aujourd'hui, on vient pour le stationnement. Donc le gêne occasionné, notamment pour les pompiers, les sorties qui ne sont pas vraiment conforme à la loi.
Bon. Parce que les voitures sont stationnées un peu partout.
Exactement. Ils sont stationnés double fil, ça s'interdit. C'est n'importe quoi.
Bonjour monsieur, je suis le voisin malin. Voisin malin. Je passe pour vous parler du stationnement, monsieur.
Oui.
Pourriez-vous m'ouvrir la porte, s'il vous plaît?
C'est à quel sujet?
Je suis Jocelyne de Voisin Malin, c'est pour vous parler de parking. Le stationnement. Pour qu'on parle juste de stationnement. Il y a d'autres informations que vous ne connaissez pas encore.
Ça ne change rien du tout.
C'est vrai,
ça change rien du tout.
Je suis bien d'accord avec vous, mais si chaque personne avance un tout petit peu, vous savez, on pourra faire un peu plus d'efforts si votre fille avance.
Et déjà, on paye déjà le cher de le loyer, et on est dans notre cité, on ne peut pas se garer.
Je comprends tout à fait. Même à Oseka, ils sont en train de créer des stationnements qui seront payants, qui feront partie de loyers. Vous vous inquiétez pas, vous n'êtes pas la seule dans cette situation. Vos autres voisins, la dernière fois, m'ont parlé de ça aussi. C'est un fléau qui touche tout le monde. Mais notamment nos enfants, ils ne savent pas se garer. Quand je dis nos enfants, c'est les jeunes qui ont à peine le permis, ils ne savent pas comment se garer. Donc, d'où les difficultés aux pompiers d'entrée. Imaginez-vous que vous êtes en incendie et les pompiers n'arrivent pas à se garer. Comment vous allez faire? Je vous en prie.
Au revoir, madame.
Je suis Anne Charpie. J'ai fondé l'association Voisins Malins en 2010. J'ai 48 ans et j'aime les gens. Je pense qu'il faut vivre en prenant du plaisir à ce qu'on fait. C'est ma règle d'or. Et prendre du plaisir, ça demande de profiter du temps qu'on a avec les gens qu'on rencontre et de faire des choses avec eux. Voisins Malins est une association qui a 5 ans maintenant et qui met en place dans des quartiers populaires, des grands quartiers populaires, des réseaux d'habitants volontaires, charismatiques, je dis aussi, parce qu'ils ont un bon relationnel. Ces réseaux, on les constitue avec beaucoup d'attention. Ce sont des personnes qui ont envie de changer les choses, qui ont un bon relationnel et qu'on salarie, mais qui restent des habitants comme les autres. Elles travaillent avec nous 3-4 heures par semaine. Mais elles ont un contrat de travail à durée indéterminée. C'est très important parce que c'est une manière de les engager et de reconnaître la valeur de leur action et de leur apporter de la formation. Et pour certaines, un statut social qui est nouveau et qui est important. Et ces personnes, leur métier, c'est d'aller faire du porte-à-porte pour aller à la rencontre des autres habitants du quartier à travers des campagnes où on leur apporte des informations utiles et on engage un dialogue sur des sujets de la vie quotidienne. Par exemple, il y a beaucoup de sujets qui ont trait à l'habitat. Dans certains quartiers, les gens sont envahis par les punaises de lit. C'est complètement obsédant. On ne dort plus la nuit, on n'a plus de vie sociale parce qu'on ne peut plus inviter les gens chez soi. Nous, on donne des informations en lien avec le bailleur social qui va financer une entreprise de désinfectisation, mais ça suppose que les gens préparent leur appartement, déjà qu'ils signalent les punaises, qu'ils n'aient pas honte, c'est pas une question d'hygiène, donc on informe les gens que c'est important de signaler pour s'en débarrasser, et ensuite préparer le logement, c'est très contraignant, et faire en sorte que, quand l'entreprise intervient, il y ait un résultat pour les gens. On travaille sur la prévention du cancer du sein, sur l'accès à des droits, l'accès au RSA, l'accès à la CMU, qui est importante pour que les gens puissent se soigner, la compréhension que les gens peuvent avoir des médecins qui sont dans leur quartier. On travaille aussi sur l'accompagnement de tous les changements qui se mettent en place. Donc on explique aux gens ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va leur apporter en mieux et comment ça marche. Et ça, c'est vraiment important parce que beaucoup de personnes sont complètement larguées par la technicité et la surabondance de réglementation qui arrive dans la vie quotidienne aujourd'hui. Quand on ne parle pas bien le français, donc beaucoup de gens dans les quartiers où on est ont un niveau de français assez faible, ils sont en France pour certains depuis moins de 10 ans. Ils ont aussi des vies très compliquées avec des problèmes d'exclusion économique. Dans des quartiers où on a 2 à 3 fois plus de gens qui sont sous le seuil de pauvreté qu'ailleurs. Donc ça génère des situations de survie, de repli sur soi. Et ce contact qu'on établit en confiance, puisque c'est un voisin qui vient vous voir, donc on l'a déjà croisé, il vit les mêmes choses que vous, éventuellement il parle votre langue. C'est un voisin qui a fait l'effort de comprendre un sujet, et donc il va vous l'expliquer avec ses mots, qui ne va pas chercher à vous vendre un message publicitaire ou politique. Eh bien, ça permet aux gens de se dire, eh bien, on s'intéresse à moi, je vais y arriver, et à se mettre en mouvement, et à résoudre des tas de petites difficultés de leur vie de tous les jours, ou même à saisir des opportunités, à se mobiliser quand on les invite à une réunion où on va expliquer qu'il va y avoir l'ouverture d'un nouveau centre social. Donc ils y vont en se disant « j'ai mon mot à dire et je vais en retirer quelque chose ». Donc ça recrée à la fois la confiance entre les personnes, mais aussi vis-à-vis de l'institution. Et ça permet petit à petit que dans un quartier, les relations entre les gens soient pacifiées, que les gens aient plus de clés pour comprendre ce qui se passe autour d'eux et du coup puissent prendre une part plus active à la vie de leur ville.
Ah ben, je suis Jocelyne, je travaille chez Voisin Malin.
C'est difficile de faire du porte-à-porte ?
C'est très difficile. Dans le cadre où les gens sont tout de suite intrigués quand ils nous ouvrent la porte et puis ils ne veulent pas nous recevoir ou ils sont attirés par la curiosité, savoir qu'est-ce que vous voulez leur dire, qu'est-ce que vous voulez leur vendre, sachant que Voisin Malin ne vend rien du tout. Donc c'est plus un service qu'autre chose.
Pourquoi ils sont réticents à votre avis ?
Bah, les gens, ils ont peur. Ils ont peur de ce qu'ils vont trouver, de l'inconnu qu'ils vont trouver derrière la porte, tout simplement. Je pense que, voilà, il y a une vieille dame qui me dit je ne vais vous rien vous acheter, je ne vais rien. Non, je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose, madame. Je suis là plutôt pour vous rendre service. Et je suis payée pour ça.
Et vous n'êtes pas découragée devant tout ce refus ou devant les portes qui ne s'ouvrent pas ?
Non, du tout. Je ne suis pas découragée, sinon j'aurais démissionné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais ça me fait plaisir, en fait, d'apprendre aux gens à savoir lire quelque chose ou à leur apprendre quelque chose de nouveau, de neuf, qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Je travaille chez Voisin Malin depuis 2 ans maintenant.
C'est pas votre seul métier, c'est un métier d'appoint.
Exactement. Avec Voisin Malin, on est formé pendant quelques temps. Par exemple, apprendre une facture de téléphone, une facture d'électricité, de gaz, à décortiquer en quelque sorte et aller expliquer aux voisins comment faire des économies d'eau, comment faire des économies d'électricité, comment regarder sa facture, savoir lire sa facture. C'est pas tout le monde qui sait lire sa facture, donc voilà. Je trouve que, mis à part la rémunération, Voisin Malin m'apporte beaucoup plus que de l'argent. Ils m'apportent déjà le savoir. Parce qu'on fait des formations et je suis sûre qu'ils sont... Et Voisin Malin paye cette formation-là. Ce n'est pas donné à tout le monde de payer, d'apprendre. C'est comme si on nous faisait retourner à l'école pour apprendre à écrire « Maman, je t'aime » ou autre chose.
Et qu'est-ce que vous apprenez à Voisin Malin ?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'apprends comment faire des économies, comment m'organiser, rompre la solitude. Parce qu'avant, je ne voulais pas sortir. Quand je suis arrivée dans ce quartier, je ne voulais pas sortir. Je restais cloîtrée chez moi, avec mon compagnon, avec mon enfant. Et vous savez, on a rencontré certaines personnes qui étaient isolées, les personnes âgées, d'autres personnes qui ne savaient pas lire, mais ils ne savent pas à qui s'adresser. Il y a les maisons de quartier pour ça. Quand on ne sait pas lire, on peut aller se renseigner à la maison de quartier. On peut aller à sa mairie. Et on peut se faire aider. Il y a beaucoup de moyens pour se faire aider, mais les gens, ils sont cloîtrés à la maison, ils ne veulent pas sortir, ils sont dans... Voilà. Et ils ne savent pas par où commencer, tout simplement. Genre, tu ne m'as pas vu ?
Ces campagnes sont toujours construites en partenariat avec un acteur qui a une compétence dans ces sujets. Ce qui permet, derrière, d'aboutir à un vrai résultat pour l'habitant. Donc, nos premiers mandataires sont des bailleurs sociaux qui sont propriétaires de tous ces logements HLM. Alors, on n'a pas que des logements HLM, mais il y en a quand même beaucoup dans les quartiers, qui sont intéressés par ces questions à la fois d'évolution des immeubles sur le bâti, l'utilisation des nouveaux immeubles, mais aussi de vie en collectivité, de respect des espaces extérieurs. Il y a beaucoup de problèmes autour du jet de détritus par les fenêtres, de respect des parties, enfin, qui pourrissent un peu la vie, le voisinage au quotidien. Il y a la question aussi du rôle du gardien qui n'est pas toujours bien comprise. On a aussi des opérateurs de services mandatés par les collectivités locales pour gérer l'eau, l'énergie, les déchets, les transports, le courrier. Tous ces opérateurs ont un intérêt à rétablir une communication avec ses habitants et à mieux comprendre les pratiques des gens pour ajuster leurs services, ce qui, in fine, arrive à permettre d'avoir un meilleur service dans ces quartiers. Et puis, on a aussi les collectivités locales, l'Agence régionale de santé, enfin, tous ces acteurs publics. On commence à avoir des acteurs de la santé, comme des mutuelles, qui s'intéressent, par exemple, au vieillissement et à l'isolement des personnes âgées. Nous, on va voir tout le monde. On a 8 portes sur 10 qui s'ouvrent au passage des voisins. On a des stratégies pour sillonner le quartier, passer à différents horaires, se mettre des alliés dans la poche. Les gardiens d'immeubles, par exemple, sont nos alliés. Et ça, c'est le manager installé dans le quartier qui permet de créer cette confiance avec les acteurs du territoire et de générer un peu un bouche à oreille qui fonctionne bien. Les financeurs sont pour une petite moitié les acteurs qui construisent avec nous ces missions, les bailleurs sociaux, les opérateurs de services, et pour une grosse moitié, soit des fondations d'entreprises ou familiales qui sont intéressées à cette question du vivre ensemble. On a la Fondation Massif qui nous soutient depuis l'origine, mais on a aussi différentes fondations d'entreprises, la Fondation SNCF, etc. Et on a également des financements publics, des subventions qui sont dans le cadre de la politique de la ville essentiellement, mais aussi de l'économie sociale et solidaire.
Nous sommes dans le 11e arrondissement de Paris, à la Petite Roquette, une vaste et populaire ressourcerie de quartier. Pierre.
Nous, on a traité ce qu'il y avait à réparer, puis voilà, résultat. On pèse, bien sûr. Tout ce qui sort, tout ce qui rentre, de toute façon, on paye. C'est bon, et voilà. Et on donne ça à monsieur qui l'emmène dans son camion. Et ça repart aussi au recyclage.
Donc on a tout, mais on n'aura pas de plus à mettre là.
Non, les trois. Bon, c'est tout, parce qu'il n'y a pas, plus de place. Que je vais redescendre en bas pour remettre. Et toutes les semaines, tous les jeudis, c'est ça en fait.
Alors là, on est dans la cuisine. Hein, on est dans la cuisine du personnel.
Ouais.
Vous faisiez quoi avant?
Avant, j'ai travaillé pendant 38 ans à la poste. J'étais agent de maintenance.
Et ça fait longtemps que vous bossez
ça
à la...
Ça fait à peu près 2 ans et demi, 3 ans bientôt là, que je suis ici.
Et aujourd'hui, vous êtes bénévole?
Non, je suis salarié. Je suis salarié, moi. Et je suis à 35 heures, je suis l'un de ceux qui sont à 35 heures.
Ça vous plaît d'être ici?
Ouais, très très bien.
Vous faites quoi exactement ici?
L'entretien, toujours. C'est moi qui fais la réparation des différents trucs qui arrivent. Ce qu'on peut traiter, ce qu'on peut pas traiter, ce qu'on peut réparer et remettre en boutique, en fait. C'est-à-dire, moi, c'est surtout électroménager, tout ce qui est cafetière, tous les trucs électriques en bas. Ben, moi, personnellement, ce que je répare, c'est pour pouvoir satisfaire ceux, malheureusement, qui n'ont pas trop d'argent et puis qui puissent venir en profiter, réparer, et puis plus ou moins propre. Quand je le fais dans ce but-là. C'est-à-dire, quand je répare un truc, je me dis, tiens, ça va servir à quelqu'un qui n'a pas les moyens.
Alors, je suis Delphine Terlizzi, j'ai 43 ans. Alors, la Petite Roquette, c'est avant tout une ressourcerie. Mais pas que, c'est aussi un centre culturel puisqu'on met à disposition des salles de répétition pour des artistes. Donc le principe de la ressourcerie, les gens amènent les dons, les objets dont ils veulent se séparer. Tous les dons ici sont pesés Pour une raison simple, c'est qu'on fait un bilan écologique à la fin de l'année et on a une traçabilité des objets. Donc les objets sont pesés par catégorie. Une fois pesés, ils sont envoyés au tri en fonction de leur catégorie. Et là, il y a plusieurs solutions pour les sorties. Il y a une sortie boutique, donc où on a une boutique solidaire à peu près de 300 mètres carrés. Ou bien on a une sortie gratuite, puisqu'on donne à peu près 10 tonnes par an. On donne aux associations, aux indépendants, aux particuliers qui sont quand même dans des besoins. Voilà. Et il y a une sortie recyclage, forcément. Donc là, on donne à des filières de recyclage agréées. Et on a une autre sortie qui est celle que nous, on aime le moins, c'est la poubelle, tout venant, puisqu'il y a des objets qui ne sont pas recyclés et qui ne sont pas recyclables en France, beaucoup. Et voilà, on arrive à établir avec cette pesée et puis ces sorties et ces entrées un taux, ce qu'on appelle de réemploi, qui est nous de 91%. En gros, pour être très clair, on n'a que 9% de vraies poubelles. Et l'autre fonction de la ressourcerie, c'est l'éducation à l'environnement. Donc pour ça, on a mis en place, on a une animatrice dédiée qui va faire des ateliers autour du recyclage toute l'année. Et on a monté le café atelier qui s'appelle La Troquette, qui lui est un café dédié vraiment à la réparation et aux ateliers, ce qu'on appelle do it yourself, les ateliers fais toi-même. Donc à partir de récup, on fabrique des objets ou bien les gens viennent avec leurs objets cassés, en panne, et ils viennent tenter de le réparer avec le technicien sur place. L'idée, c'est vraiment de faire, on est vraiment sur l'économie sociale et circulaire, on a le label, hein, nous, entreprise solidaire, et les gens qui déposent ici sont à 95% des gens du quartier, donc du 11e arrondissement, et vraiment du quartier proche, presque à 2 km autour. Les gens qui achètent sont principalement des gens du 11e, donc on vide son placard, on amène, et ça circule, tout ça circule essentiellement dans le 11e arrondissement.
Bonjour. Qu'est-ce que vous nous préparez là?
Alors, il y aura des lardons, de la coriandre, plein d'oignons, des champignons. Je vais faire une petite sauce avec tout ça et je vais faire des lasagnes, en fait. Je n'ai pas vraiment de recette. C'est au fur et à mesure.
Vous venez tous les jours, la petite Roquette?
Là, pour le moment, oui. Ouais, sauf le week-end, je me repose.
Vous êtes bénévole?
Oui.
Et qu'est-ce qui vous a plu, la petite Roquette?
Qu'est-ce qui m'a plu, la petite Roquette? Ce côté... Je sais pas. Tout me plaît à la petite Roquette, au fait. Dès qu'on rentre dans ce lieu, ben, c'est une explosion de joie, de sensations. Moi, j'ai l'impression d'être une petite fille, quoi. Et en plus de traverser le temps, parce qu'il y a des objets juste extraordinaires, on tombe sur tout. Moi, j'ai la chance d'être habillée made in petite Roquette. Et les gens, apparemment, ils apprécient beaucoup, puisque tout le monde me dit « Ah, tu es jolie !»
Expliquez-nous ce que c'est d'être habillé Made in Roquette.
Bah, Made in Roquette, c'est comme il y a énormément de vêtements et qu'il y a des bénévoles et des salariés qui trient et qui remettent en état les vêtements, moi j'ai la chance de pouvoir en bénéficier parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Je suis SDF, je vis dans un squat et au moins je peux m'habiller correctement. Je peux m'habiller correctement. Alors, voilà.
Ça fait longtemps que vous êtes dans un squat?
Ça va faire depuis le mois d'octobre. J'ai découvert les squats l'été dernier. L'économie solidaire, je suis née, j'ai grandi dedans. Parce qu'à travers le système des tontines, des trucs comme ça, ça... Alors moi, c'est pas que ça me fait rire, mais c'est bien si les consciences s'éveillent. Mais bon, ça fait partie de mes valeurs, de ma culture. Et je suis très contente qu'une partie de ma culture métissée rejoigne ma culture africaine dans certaines valeurs. Je vis en squat, on m'avait tout volé. Et j'ai pu me vêtir ici. Voilà. Désolée. Et il y en a quand même quelques-uns dans la vie où, pour eux, la solidarité, c'est un état d'esprit, c'est pas un concept. Et puis voilà, c'est grâce à ça qu'il y a des initiatives comme ça. Et qu'on peut redonner de la dignité à certaines personnes. Et puis voilà, quoi, c'est sympa. On a l'impression d'être dans une grande brocante. Moi, je cuisine sur un truc professionnel. Voilà, j'ai des super bonnes conditions. Ils trouvent ça bon, bah, c'est que du bonheur. J'ai vraiment un réel plaisir à venir le matin ici. Le soir, quand je pars, je suis complètement exténuée parce que bah, je me suis rendu compte que en un mois et demi, j'avais fait 1000 repas avec mon pied tout pourri, pratiquement bénévolement, pour tous les collectifs et tout ça. Bah, je suis fière de moi. Je suis très fière de moi. Voilà ce que je pouvais dire.
Au début, on était 0 salarié, puis 3, puis 8, puis 12, puis 17 aujourd'hui.
C'est une belle métaphore de réemployer des gens tout en réemployant et réutilisant des objets.
Oui, c'est une belle métaphore et on en est assez fiers ici. J'ai envie de dire que quand on... Comment je pourrais expliquer ça? Mais quand on... Voilà, on s'occupe bien des objets ici, mais on s'occupe bien des gens aussi. Voilà, c'est vrai que nous, les objets, on les soigne. Chaque assiette est nettoyée, lavée, étiquetée, vérifiée, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est les gens d'abord. C'est ça que cette entreprise solidaire, elle a envie de communiquer. Donc s'occuper des objets, c'est bien, mais il y a des gens derrière. Donc voilà, on travaille beaucoup sur l'entreprise solidaire et le côté humain de la chose. C'est l'humain au cœur du projet, en fait.
Pour moi... L'économie sociale et solidaire doit affirmer un mot qui...
Hugues Sibyl.
Quelquefois, on a une pudeur à l'utiliser, qui est le mot humanisme. Pour moi, c'est d'abord une économie humaniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le capitalisme, quand il parle de l'homme, il dit une ressource humaine. C'est-à-dire que vous n'êtes qu'une ressource. C'est pas vous, l'objectif. L'objectif, c'est autre chose. C'est le résultat. C'est le profit. Mais vous êtes un moyen pour atteindre ça. Vous êtes une ressource. Il y en a d'autres. Il y a du pétrole, c'est une ressource. Il y a l'argent, c'est une ressource. Moi, l'économie que je défends en tant que ESS, c'est une économie dans laquelle l'homme n'est pas une ressource, l'homme est la finalité. Ça, c'est fondamental parce que finalement, tout le reste en découle et l'économie sociale ne doit pas avoir de pudeur à le dire. Nous défendons une économie humaniste. Et ça veut dire... une série de déclinaisons qui est que effectivement les usagers de l'économie on voit au chapitre que à aucun moment les produits que nous fabriquons sous prétexte qu'ils vont générer des résultats sont en réalité négatifs pour l'homme, ce qui est quand même assez régulièrement le cas encore aujourd'hui sur toute une série de domaines. Donc cette économie sociale et solidaire, si elle affirme cet humanisme, elle en tire des conséquences. Par exemple, la finance est au service de l'économie et non pas l'inverse. C'est la même déclinaison de ce que j'ai dit précédemment. Donc on ne se préoccupe pas d'abord d'avoir des résultats financiers et des masses de capitaux qui se déplacent à une vitesse sidérale pour aller chercher en fraction de dixième de seconde des résultats, mais on est dans l'économie réelle. Par exemple, l'économie réelle, c'est quelque chose qui est tout à fait fondamental pour l'économie sociale et solidaire. C'est pas une économie de la spéculation. Donc, cette économie sociale et solidaire, aujourd'hui, elle doit donner à voir cette dimension-là et autour, pour moi, pour finir, de l'articulation entre trois choses, des valeurs, des statuts, et des pratiques. Des valeurs, il faut dire quelles sont nos valeurs. Moi, j'ai dit démocratie et solidarité. Il faut dire quelles sont nos formes d'organisation et nos statuts. C'est pas neutre. C'est-à-dire, il faut pas être éthéré là-dessus. La manière dont nous sommes organisés, la manière dont notre droit, nos statuts sont mis en place, la démocratie, c'est aussi des choses qui s'organisent. C'est très important. Donc, des statuts et des pratiques essentielles. Pendant trop longtemps, l'économie sociale et solidaire, finalement, a dit « Nous sommes justes, et donc c'est très bien. Nous n'avons pas à rendre compte de ce que nous faisons. Maintenant, il faut aussi avoir des pratiques et rendre compte de ces pratiques. » C'est-à-dire de dire « J'affiche que je suis démocrate et solidaire, j'en rends compte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que effectivement un homme, une voix, ça marche? Est-ce qu'on l'applique vraiment dans les entreprises? Est-ce qu'on dit que c'est équitable? Est-ce que oui, c'est vraiment équitable ?» Donc, nous serons crédibles si nos pratiques sont des pratiques qui sont conformes à nos statuts et à nos valeurs. Et si on fait marcher ces trois éléments du triangle ensemble, alors on est capable de convaincre et on est capable d'entraîner l'adhésion et donc on est capable de se développer, de changer d'échelle. On peut changer d'échelle si on articule bien des valeurs fortes, on les met pas dans notre poche, on les sort, des statuts et des pratiques. Earth crisis. Oh yeah, yeah. Oh mama, please mama, tell me mama, how to survive this economical crisis. C'était pour une économie plus humaine. Attaché de production, Christine Bernard. Prise de son, Thomas Robin, Loïc Duros, Georges Thau, Philippe Etienne et Patrice Klein. Mixage, Pierrick Charles. Réalisation, Guillaume Baldi. Un documentaire de Patrick Boudet. Time is winding up, winding up, winding up. Time is winding up, winding up, winding up. Voilà, LSD, la série documentaire, c'est tout neuf, mais c'est fini pour aujourd'hui. Et c'est une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous en voulez encore, bibliographie, liens, mais aussi nous podcaster pour plus tard ou nous réécouter pour toujours, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Demain, deuxième épisode, Power to the People, l'entrepreneuriat social,